Trois ans plus tard, mon père fut posté à l'ONU. Nous quittâmes Pékin pour New York. On ne peut pas se figurer contraste plus absolu. New York regorge d'oiseaux, pigeons, moineaux, mouettes. À Central Park, des passereaux de toutes sortes. Des corbeaux aussi, mais pas uniquement. Je vécus ces retrouvailles comme une résurrection. Chaque week-end, nous allions dans une cabane au fond de la forêt Upstate New York, en un lieu d'une sauvagerie à peine concevable. La gent aviaire y pullulait. Les geais, les merles, les fameux mockingbirds, les cardinaux, les bruants hudsoniens, il n'y en avait que pour le ciel. Je redécouvris cette ivresse de se réveiller avec le jour et de rester au lit pour guetter les chants d'oiseaux. Bonheur sans nom, de les identifier peu à peu, comme on le ferait pour les instruments d'un orchestre. Joie de sentir la liesse de cette musique et de s'en laisser envahir. Qui peut résister à cette imprégnation, même inconsciente? Je n'avais pas de défense immunitaire contre cette beauté. Comme ma mère interdisait de quitter le lit avant 7 heures, la contemplation auditive devint l'activité de mes aubes. Impossible de s'habituer à un processus aussi variable. Chaque matin était le premier. Les saisons n'étaient qu'un paramètre parmi tant d'autres. Je ne tardais pas à élucider une vérité merveilleuse, à savoir que les oiseaux sont des individus. Affirmer que le rouge-gorge chante bien équivaut en sottise à déclarer que l'homme chante bien. En tendant l'oreille, je décelais quel rouge-gorge avait du talent. Ce n'était pas uniquement une question de spécimen. De même que les plus grands chanteurs d'opéra peuvent ne pas être au sommet de leur forme pour 1000 raisons différentes, un seul rouge-gorge pouvait manquer de talent tel jour ou à telle heure. L'hiver, il me fallait attendre plus longtemps le début du concert qui se limitait alors à de rares solos. Ce furent les performances les plus bouleversantes. Le chant du matin d'hiver échappait à l'invitation amoureuse. Il était chant de survie. Ce merle transi de froid inventait une beauté plus haute pour détourner ses sens de la souffrance. Chanter pour apprivoiser le gel. Quel héroïsme! Beaucoup plus tard, quand j'entendis l'air célébré du génie du froid, je me demandais si Purcell n'avait pas trouvé son inspiration dans cette pratique hivernale des oiseaux. Et lorsque moi-même, je grelotte sans rémission, j'essaie de chanter pour m'en sortir. Faut-il préciser que le résultat laisse à désirer? Reconnaître l'élégie glaciale du fond de son lit invitait à jouir plus profondément de la chaleur des couvertures. Il n'empêche qu'identifier la voix d'un cardinal et ne pas avoir le droit de courir à la fenêtre pour l'admirer relevait du supplice. Je devais alors imaginer l'éclat rougi de son plumage. Boris Vian inventa le piano cocktail. Je créai le piano chrome. Tel son déclenchait telle couleur. La traduction chromatique pouvait être très subtile qui précédait le lever du soleil. C'était des nuances qui se percevait dans l'obscurité. Je dormais avec ma sœur qui avait le sommeil léger. Je ne pouvais pas ouvrir le rideau en cachette. Nos parents dormaient dans la chambre d'à côté. La cloison était très mince. Aucun bruit ne passait inaperçu. Ne pas transgresser le silence avait le mérite de développer l'acuité auditive. Certaines aubes, il me semblait entendre jusqu'à l'enrouement d'une mésange. À mon chevet, le réveil était l'objet d'un guet maladif. À 7 heures pile, je me levais et sortais de la chambre sur la pointe des pieds. Dans la salle de séjour, je trottinais jusqu'à la fenêtre, soulevais le rideau et interrogeais des yeux les branches d'arbres environnantes. L'hiver, il faisait noir et je ne pouvais rien distinguer. Le nez collé à la vitre, j'attendais la naissance du jour. La réverbération de la blancheur permettait d'y voir clair plus tôt. Je connais peu d'émoi plus vif que l'épiphanie du cardinal sur fond de branchages enneigés. Le drapeau japonais n'était pas son cousin. Voir apparaître un à un les concertistes de l'aube m'obsédait. Il me fallait ensuite préparer le café, tâche qui m'était nouvellement dévolue et que je prenais très au sérieux. Nous n'avions ni cafetière ni percolateur. Je recourais donc à la bonne vieille méthode du filtre en papier. Ma mère m'avait enseigné que plus lentement je verserais l'eau, plus j'obtiendrais un café corsé. Je versais l'eau, par conséquent, à une lenteur désespérante. Cela tombait bien. J'avais tout mon temps. C'était pour moi un sport de saisir la louche et de la vider sur la poudre goutte à goutte. Je voulais battre tous les records de lenteur. Ainsi, quand mon père se lèverait, je lui apporterais une tasse de mon élixir. Il y tremperait les lèvres et s'exclamerait « Je reconnais ton café, il n'y a que toi pour en faire un aussi fort. » Son ton approbateur équivaudrait à mes yeux à une distinction militaire et je bombais déjà le torse en prévision. Être la vestale du café détournait mon attention des oiseaux. Dès que j'allais jouer dehors, je les retrouvais avec plaisir, mais j'avais mis l'autre centre d'intérêt, comme vérifier si le ruisseau coulait toujours ou patiner sur le lac. C'est le propre de l'enfance d'offrir son adoration absolue à telle activité, avec une sincérité sans bornes, et puis de s'en désintéresser jusqu'au lendemain. Le dimanche soir, nous retournions à New York. Mon père nous sortait plusieurs soirées par semaine. Il nous emmenait voir des ballets. Pour moi, le lac des cygnes était un titre générique. Même quand le ballet s'intitulait Gisèle ou Coppelia, j'y voyais un chapitre de cette affaire d'oiseau. Je me pris dès lors d'une passion folle pour ces spectacles aviaires et décrétai que je deviendrais danseuse étoile. On m'inscrivit au cours de danse où je manifestais très peu de dons, ce qui ne changea rien à ma conviction d'y arriver. De tous les animaux de la préhistoire, le dinosaure était celui que l'on s'attendait le moins à voir voler un jour. C'est pourtant lui qui parvint, au terme certes d'une évolution aussi interminable que périlleuse. S'il y avait réussi, pourquoi pas moi ? Consciente que je ne disposais pas de millions d'années devant moi, je décidai de brûler les étapes. Puisque la professeure m'interdisait les pointes au motif que j'étais une débutante, je fis la queue à la sortie des artistes du New York City Ballet et sautai au cou de mon égérie, Suzanne Farrell, qui était alors danseuse étoile. Je lui demandai si je pouvais acheter ses chaussons et dans un élan d'affection, elle les offrit, dédicacées, à cette gamine de 8 ans. Il s'avéra que la ballerine adulte avait la même pointure que moi, peut-être pour s'être tant supplicié les pieds. J'enfilai ses chaussons et ne marchai plus que sur les pointes. À l'école, dans le bus, chez moi, on ne me connut plus d'autre allure. Je le vécus comme un très convaincant prélude à l'envol. Marcher sur les pointes modifiait considérablement la répartition de la pesanteur. Quand personne ne me regardait, je battais des bras, examinant la possibilité de quitter le sol. En présence de tiers, je tentais le célèbre grand jeté en avant que Nijinsky avait révolutionné dans le spectre de la rose de Diaghilev. Les spectateurs avaient cru que le danseur s'envolait. De même que le Vatican est le pire ennemi de la sainteté, ce fut la professeure de ballet qui remarqua mon manège et avertit mes parents que je mettais gravement en péril ma croissance et mon intégrité physique. Les chaussons furent confisqués et je recommençai à fouler le plancher des vaches. La grâce de l'enfance opéra. Au lieu de me décourager, je passais à autre chose sans pour autant renoncer à rien.